Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Alain Prochian. Ce soir, toute déformation est apprentissage.
Bonsoir Alain Prochian.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous recevoir toute cette semaine chez vous pour cette série d'entretiens. On est entouré chez vous par des œuvres d'art, des sculptures, des objets glanés au gré des voyages, on a l'impression. Alain Prochian, vous êtes neurobiologiste, morphogénéticien et spécialiste de la biologie du développement. Vous êtes membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France, ce même Collège de France dont vous avez été l'administrateur de 2015 à ce mois de septembre 2019. Cette institution, mais aussi le CNRS, l'INSERM ou encore l'École normale supérieure ont jalonné votre vie de chercheur. Une vie marquée par une découverte importante et une vie engagée dans la compréhension du vivant, de son évolution et de ses formes contre toutes sortes de dogmatismes ou de puritanisme. Votre pensée scientifique, dont vous avez rendu compte dans une quinzaine de livres, mais aussi dans des spectacles avec Jean-François Perret, est nourrie de nombreuses influences, des scientifiques certes, mais aussi des philosophes, des auteurs de littérature, des fabricants de théâtre ou encore de la poésie. En somme, toute une constellation de regards qui vous aide à voir l'invisible sous le visible, comme vous le dites, et à ancrer la science dans la culture pour une meilleure compréhension de cette espèce étrange qu'est Homo sapiens avec ce cerveau que vous qualifiez de monstrueux. En 2007, vous deveniez professeur titulaire de la chaire Processus morphogénétique au Collège de France, et dans votre leçon inaugurale intitulée Géométrie du vivant, vous disiez vouloir donner sa place à la rêverie dans la science pour augmenter les chances de trouver une issue. Alors ma première question concerne cette notion de rêverie. Est-ce que c'est une notion qui a été toujours présente dans votre vie, à commencer par l'enfance ?
Je ne me souviens pas de mon enfance, ça c'est un problème pour moi. J'ai commencé très tard à vivre, vraiment. Donc, la rêverie est importante en science pour moi. D'ailleurs, c'est le côté un peu bachelardien attardé qu'on peut trouver chez moi. Je pense que la rêverie fait partie de ce que j'appelle la science nocturne. C'est-à-dire qu'évidemment, la science est rigoureuse, elle est difficile, il n'y a pas de concession à faire sur la preuve. Mais quand on invente, quand on prend un risque, c'est un risque que j'appelle rêverie, si vous voulez, c'est-à-dire tourner dans sa tête toutes les possibilités, imaginer. Et c'est ce que j'ai appelé ailleurs science nocturne, mais ça fait partie de la science. Il n'y a pas que la science diurne, parce qu'un scientifique, il est scientifique jour et nuit, oui.
Alors on va revenir à cette notion de science nocturne un peu plus tard dans notre entretien. J'aimerais insister quand même un petit peu sur cette notion d'enfance. En 2018, pour France Culture, vous animiez une série d'entretiens qui s'appelait « Imagination ». Alors, peut-être que vous ne vous souvenez pas de votre enfance, mais l'imagination de votre enfance, à quoi ressemblait votre imaginaire ? De quoi était peuplé votre imaginaire ? De quels livres ? De quelles légendes ? De quel environnement ?
Bon, si vous voulez me faire dire que j'ai toujours voulu être un scientifique depuis que j'étais petit, la réponse est non. En fait, je suis scientifique par accident. Donc, mon enfance, puisque vous voulez qu'on en parle, mais enfin, à partir du moment où on peut s'en souvenir, c'est plutôt... dans les livres, voilà. J'étais plutôt, je dirais pas un rêveur, mais un lecteur. Un lecteur rêveur, peut-être. D'aussi loin que je puisse me rappeler ce qui me donnait du plaisir, en tout cas sur le plan intellectuel, c'est la lecture essentiellement. J'avais la chance d'être dans une maison où il y avait énormément de livres. J'ai pris ce virus, de la lecture. Donc, au fond, j'aurais peut-être voulu être littérateur. J'ai pas du tout la vocation scientifique. D'ailleurs, certains vous diront que ça se voit. Mais ça m'est arrivé un peu par accident, par faiblesse peut-être aussi. C'était plus sûr de faire des études scientifiques. Et puis bon, je suis entré à l'école normale supérieure. Enfin, j'avais un parcours très classique, hein, vous l'avez dit. C'est presque honteux d'entendre des choses pareilles. Et puis là, j'ai rencontré les pratiques des laboratoires et je voulais pas être ingénieur, vous voyez, donc c'est un peu par défaut le choix scientifique. Je voulais pas être ingénieur, je voulais pas être professeur, enfin enseignant au sens collège, enfin pas Collège de France, collège tout court. Et donc j'ai eu la chance de rentrer dans un laboratoire où j'ai rencontré des gens très sympathiques et j'ai pris goût à la chose et je me suis décidé d'aimer ce que je faisais plutôt que de faire ce que j'aimais. Voilà, et je pense que c'est très raisonnable dans beaucoup de situations dans la vie.
On va revenir un petit peu à ses prémices, à votre origine en tant que scientifique. Avant ça, vous disiez que quand vous étiez jeune, vous ne vouliez pas devenir ingénieur. Vous étiez dans votre famille entouré de médecins. Alors qu'est-ce qui vous a fait choisir une voie qui n'était ni ingénieur, ni médecin? Et à quel moment le virus des sciences s'est insinué en vous?
Je ne sais pas si le virus des sciences est insinué en moi. C'est plutôt le virus de la mosaïque jaune du navet sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé sur son ARN, hein, pas sur lui, mais j'ai fait de la biologie moléculaire et de la chimie en fait moléculaire à l'époque, entre Jussieu, l'Institut Jacques Monod, et puis le MIT à Cambridge, du côté de Boston. C'est curieux, vous voyez, j'ai fini par aimer ce que je faisais. C'est vraiment vrai ce que je dis, c'est-à-dire que... C'est à force de le faire que j'ai compris la beauté de la chose. Et puis, je me suis mis à lire beaucoup autour de la science. Et en particulier, quand j'étais au MIT, je m'ennuyais énormément. J'étais assez jeune.
C'était au milieu des années 70, à peu près.
Voilà. Et j'avais pas énormément d'argent. Et donc, je passais beaucoup de soirées et de nuits à la bibliothèque. On y fait aussi des rencontres, comme vous savez. C'est pour ça que les bibliothèques devraient être ouvertes toute la nuit. Et donc, mais en même temps, je lisais quand même pas mal des livres que je glanais, et pas des livres de sciences dures. Hein. C'est là que j'ai lu Darcy Thompson pour la première fois. C'est là que j'ai lu beaucoup d'auteurs pour la première fois, d'auteurs qui parlaient de la biologie, qui parlaient de la science, qui parlaient de la physique aussi, Turing.
Darcy Thompson, rappelle que c'est un biologiste, un mathématicien britannique qui a écrit un livre qui s'appelle « Forme et croissance ».
Il était écossais, je crois. C'est une nuance que les Écossais apprécient.
Importante.
C'était quelqu'un qui voulait tout ramener aux mathématiques. C'est-à-dire que pour lui, il n'avait de science que mathématiques. Il était très, très positiviste. Ce n'est pas une chose à laquelle je suis entièrement d'accord, mais... C'est très intéressant de le lire quand même, de même que la lecture de Turing, de Gawain de Beer, tous ces gens que j'ai lus à ce moment-là, et qui m'ont fait voir que la science était peut-être une part de la littérature aussi. Et peut-être que ça m'a donné le goût des sciences à travers ce côté littéraire. Hein. Quand on lit Darwin, ou quand on lit Claude Bernard, on ne peut pas ne pas être happé par l'aspect littéraire de l'objet scientifique. Et dans les objets littéraires, il y a cette part de l'imagination, du rêve, etc. Oui.
Alors, on ne va pas brûler toutes ces étapes.
Non, mais vous me poussez, moi,
oui.
je suis un type spontané.
Je voudrais rester un petit peu dans votre période de formation, comprendre un petit peu aussi l'environnement familial dans lequel vous avez évolué. Vous avez, je crois, des origines un petit peu diverses, la Lituanie, l'Arménie, le Pays Basque.
L'Étonie.
Arménie, Pays Basque, des origines également religieuses différentes. Vous êtes un athée convaincu. Est-ce que vous avez grandi dans un environnement religieux? Et si oui, pourquoi vous avez choisi?
Non, j'aime pas du tout parler ni de ma famille, ni de mon enfance. Je suis plutôt adepte du comité anti-racine, personnellement. Donc, oui, il se trouve que j'ai une grand-mère juive lettonne, j'ai un grand-père orthodoxe arménien, un grand-père juif basque. Une grand-mère qui devait être à moitié française et à moitié espagnole, je me souviens plus très bien. Oui, j'ai été baptisé parce que en 48, ça se faisait beaucoup, surtout dans les familles juives, de baptiser les gens, les enfants. On ne sait jamais, hein, quand ils reviendraient. Tu vois, qu'on puisse avoir la preuve physique de son catholicisme, à la fois sur le papier, puis aussi physique, oui. Donc, mais... J'ai jamais pris ça très au sérieux, ni au tragique. Non, j'ai jamais cru en rien. Voilà. C'est très difficile.
Qu'est-ce qui est très difficile?
De ne croire en rien.
C'est moins rassurant?
Non, parce que de croire en rien, c'est croire en rien. Mais il faut croire en rien et vivre quand même. Alors, il y a Bouvresse qui avait écrit ce livre. Peut-on ne croire en rien? Moi, je crois que oui, on peut croire en rien. Mais je le crois quand même. Donc, voilà, il y a une contradiction déjà dans le terme au départ. Voilà.
Pour en revenir à votre formation, vous avez intégré l'École normale supérieure. Est-ce que, quand vous êtes rentré dans cette institution, vous aviez déjà une petite idée de là où vous vouliez aller?
Non. Quand je suis entré à l'École normale supérieure, c'est parce que je ne voulais pas devenir ingénieur. Donc j'ai choisi l'École normale supérieure. Et donc j'avais peut-être une idée quand même d'une vie intellectuelle. Bon, peut-être eu tort, mais... Donc j'ai pris l'École normale supérieure, puis c'était chic. Puis il y avait un salaire avec. C'est une grande liberté qui vous est donnée... d'être payé pour faire vos études. Et donc, ensuite, à l'époque, surtout, on passait l'agrégation. Alors moi, j'ai pas voulu passer l'agrégation, je voulais pas devenir professeur. Donc, et puis ça, j'avais déjà assez eu de mal à entrer à l'école normale avec tous ces concours qu'il faut préparer. Et en plus, préparer l'agrégation, alors là, c'était trop. Et donc, j'ai dit non, je passerai pas l'agrégation. Et on m'a dit, ben, si tu passes pas l'agrégation, c'est parce que tu penses que tu ne l'aurais pas si tu la présentais. Donc, bon, très bien. Donc, je l'ai pas présenté. Et donc, je ne l'ai pas eu, mais pour de bonnes raisons. Et à l'époque, c'était bien parce que j'avais déjà commencé à travailler dans un laboratoire. Et j'ai démissionné donc au bout de 3 ans. Et j'étais immédiatement, alors là, c'était des périodes bénies, hein, reçu au CNRS comme stagiaire de recherche. Donc, je passais directement de ces 3 ans, qui étaient en fait des 3 ans à la fac, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enseignement à l'école normale. On allait prendre les licences et les maîtrises à la fac. Donc, j'ai fait un enseignement de fac 1, voilà. Et après, je suis entré dans un laboratoire à la fac, où j'ai fait ce qu'on appelle le 2A aujourd'hui, je sais pas. On appelait ça le 2A, maintenant on appelle ça un Master 2. Puis après, j'ai continué avec une thèse, comme vous le savez, sur l'ARN, la partie 3' terminale de l'ARN messager du virus de la mosaïque jaune du navet. C'était pas parti très glorieusement, hein. Le navet n'a pas une grande cote dans la biologie moléculaire.
On parlera plus tard de votre passage du navet au cerveau d'Homo sapiens. Vous aviez une vingtaine d'années au moment de mai 68, alors c'est une question un peu tarte à la crème, mais est-ce que à ce moment-là, vous étiez le nez dans vos concours et vous êtes passé un petit peu à côté de cette période, ou au contraire, est-ce que vous avez senti...
Tout. J'ai pas voulu lâcher les études, j'ai vu des copains qui lâchaient leurs études. Ils s'en sont mordus les doigts plus tard, hein, bien entendu, même si c'était admirable comme geste, c'était héroïque. Mais moi, j'avais quand même l'idée de continuer. Donc, j'étais sensible à ce qui se passait autour de moi, surtout pour les aspects un peu libertaires, pour rien vous cacher. Surtout la libération sexuelle qui a accompagné 68 a été pour moi importante. C'est-à-dire que je n'aurais jamais fait mystère. Mais oui, j'étais aussi assez engagé plutôt à gauche. Et je le suis resté.
Votre conscience politique est née à ce moment-là?
Je ne sais pas si on peut parler de conscience politique, mais... Non, j'ai fait des sciences parce que je voulais pas être ingénieur. Et je suis de gauche parce que je veux pas être de droite. Voilà, disons les choses comme ça.
Une vie en opposition, donc, d'une certaine façon.
Un peu comme ça, oui. Il y a des repoussoirs plus que des attracteurs.
Alors, votre travail de thèse, on en a parlé à plusieurs reprises, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet, dans ce virus de la mosaïque jaune du navet. Qu'est-ce que vous avez cherché dans ce travail de thèse et avec qui, finalement, vous avez, voilà,
un type formidable qui s'appelait Pierre Yo. Je fais ma thèse chez un professeur qui s'appelait François Chapville, qui était un vétérinaire polonais qui était arrivé en France, qui a fait une très belle découverte aux États-Unis dans le laboratoire de Fritz Lippmann. Il travaillait sur quelque chose qu'on appelle les ARN de transfert, c'est-à-dire un petit ARN qui permet de coder. En fait, il reconnaît un acide aminé et puis il reconnaît le messager de l'autre côté, ça permet de transformer le messager en protéine en mettant chaque acide aminé là où il faut. Et donc, travailler là-dessus dans ce laboratoire beaucoup. Hein. Et un jour, Pierre Yo et Anne Liseni, qui était mon directeur de thèse en fait, une femme suisse très sympathique, toujours vivante d'ailleurs, ont fait une découverte incroyable, c'est qu'on pouvait trouver un acide aminé au bout d'un messager, d'un ARN messager. Ça, c'était du jamais vu, parce que l'ARN messager, ça se faisait, je sais pas... 2000 paires de bases ou 3000 paires de bases et ARN de transfert, ça en fait 70, 80. Donc, comment se fait-il que tout d'un coup ce truc. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher la structure du fragment d'ARN qui attachait l'acide aminé pour voir s'il avait une structure comme un ARN de transfert. Bon, c'est un peu compliqué, mais. Et pour faire ça, il n'y avait qu'une chose à faire, c'est la séquence. Mais c'est drôle parce que c'est une époque où faire une séquence juste de 110 nucléotides comme ça, ça prenait environ 4 ans. Aujourd'hui, ça prend à peu près 4 jours. Donc, avec le recul, heureusement que j'ai pris ce temps-là pour lire, parce que j'ai fait en 4 ans ce que des gens font aujourd'hui en 4-5 jours. Voilà. Et ça se faisait par... ça, c'était très formateur, parce qu'il n'y avait pas de biologie moléculaire au sens où il y en a aujourd'hui. Ça se faisait par approche chimique. Et donc, c'est pour ça que j'ai été au MIT, dans le département de chimie du MIT, pour apprendre. Donc j'ai aussi eu la chance d'être mis au contact avec la chimie, avec une approche un peu différente. Ce sont des années de formation, et au fond, que c'est pris 4 ans, c'est pas si grave, hein, parce que ce que j'ai fait pendant ces 4 ans a été très formateur sur le plan intellectuel. J'ai vu des chimies, j'ai lu beaucoup de choses, et puis j'ai appris que finalement les techniques, c'était moins important que les concepts.
Alors, votre passage au MIT, qu'est-ce que vous en retenez? Et est-ce que déjà, à l'époque, vous voyez une différence entre la pratique scientifique aux États-Unis et la pratique scientifique en France?
J'étais dans un laboratoire. Je ne me rendais pas compte, bien sûr. Quand on est trop près, on ne voit plus rien. Donc, je ne me rendais pas du tout compte quand j'étais dans le laboratoire de François Jabil que c'était un laboratoire américain. Parce que, on l'appelait Franek. Le petit François, donc Franek était rentré de Rockefeller, là où il avait fait son postdoc à l'Institut Rockefeller à New York. Il avait été découvert par Jacques Monod. Et il avait reconstruit un laboratoire, d'ailleurs comme d'autres, hein, François Gros à cette époque, beaucoup de gens à l'Institut Jacques Monod, reconstruit un laboratoire sur le mode de fonctionnement qui est celui qu'on trouve aux États-Unis. Donc pour moi, tout ça était relativement familier. Et familial, d'ailleurs, faut dire. C'est après, quand j'ai été dans un autre laboratoire, que je me suis rendu compte du caractère exceptionnel du laboratoire dans lequel j'avais pu poursuivre mes études de doctorant. Parce que l'autre laboratoire dans lequel je suis allé, qui était un très bon laboratoire, dirigé par un type formidable, tout le monde est formidable, hein, fonctionnait sur un mode très français, en l'occurrence, très assez proche de la médecine, en plus. Et donc, peut-être... S'il m'écoute, il ne m'en voudra pas, parce qu'il sait que je l'aime beaucoup. Peut-être plus conservateur dans son mode de fonctionnement, voilà.
Vous parlez souvent de la science comme d'une conversation entre amis. Est-ce que cette conversation, à cette époque-là, était particulièrement fertile, prolixe?
Non, je pense que j'étais trop jeune pour avoir une conversation. Il fallait encore que je construise le fond de sauce nécessaire à toute conversation. Donc non, je pense que j'étais vraiment dans une période d'apprentissage et je ne comprenais pas très bien ce que je faisais. J'étais encore dans les brouillards de la guerre. On est toujours, quand on fait de la science, dans les brouillards de la guerre. À un moment, on en sort parce que, au fond, on prend de la distance avec ce qu'on a fait pour des raisons qui sont inévitables. Vous verrez quand vous serez grand. Mais voilà. Quand on est vraiment dans le truc, on n'y voit pas grand-chose. Voilà. Donc, je suis conçu après que c'est une conversation entre amis grâce au travail que j'ai pu faire avec Jean-François Perret, essentiellement. Qui m'a un peu éclairci sur ce que je faisais. Oui.
Jean-François Perret qui vous a amené sur les planches, qui vous a en tout cas emmené vers le théâtre.
Vers le théâtre, pas sur les planches. J'ai toujours refusé de faire quoi que ce soit sur les planches, y compris même de la mise en scène, c'est pas mon boulot. Mais j'ai beaucoup travaillé avec Jean-François et à ce moment-là, j'ai eu une conversation entre amis, mais j'avais commencé avant, à vrai dire. Pas uniquement avec les gens avec qui je travaille ou avec les gens, avec mes contemporains, mais une conversation avec les morts. J'ai beaucoup conversé avec Claude Bernard, hein. J'ai beaucoup conversé avec Darwin, j'ai beaucoup conversé avec Turing. Alors il me dit, alors j'y réponds, enfin vous voyez quoi. Mais ça, c'était très important pour moi parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas faire une science contemporaine uniquement en améliorant par des moyens techniques des découvertes qui ont déjà été faites. Il faut comprendre l'histoire de ce sur quoi on travaille.
Alors, on va aller des morts aux vivants. On va revenir à votre retour du MIT au moment où vous intégrez le laboratoire de Jacques Glowinski au Collège de France, déjà. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Jacques Glowinski? Qui est-il et quelle a été son influence sur vos travaux?
Jacques Glowinski, c'est une personnalité très attachante. C'est un grand sentimental. Mais il faut se méfier un peu des grands sentimentaux. Donc, mais j'étais très ami avec lui. Donc, une sorte de lien d'amitié et de confiance. À l'époque, par exemple, je vivais avec un garçon et il me recevait chez lui. Vous voyez, donc 76, c'était quand même le signe d'une grande ouverture d'esprit. Hein, oui, je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours beaucoup d'ailleurs. J'ai encore vu hier, on a un petit peu bavardé. Et c'est un type qui avait découvert quelque chose d'extraordinairement important quand il était aux États-Unis. Dans le laboratoire de Julius Axelrod au NIH, National Institute of Health. Et il avait découvert qu'il y avait, en rentrant du NIH, dans son laboratoire, l'équipe qui travaillait sur ce domaine, parce qu'il avait un gros laboratoire, mais bon, il était vraiment derrière tout, avait découvert ce qu'on appelle la dopamine corticale, c'est-à-dire un neurotransmetteur qu'on ne pensait pas exister dans le cortex, dont on pouvait penser qu'il avait énormément à voir avec le fonctionnement du cortex cérébral et surtout les maladies psychiatriques. Cette découverte a participé au développement d'une biologie psychiatrique. Donc Jacques était un avait fait une très 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 belle découverte. Oui, je pense que c'est pour ça qu'il a été élu au Collège de France, à juste titre. Alors il n'a pas, si vous voulez, moi je venais de la biologie moléculaire, il m'avait laissé aussi une très grande liberté. C'était assez rare à l'époque, vous savez, parce que j'ai eu tout de suite mon équipe, et j'étais tout de suite indépendant, j'ai signé mes papiers en dernier tout de suite, et il m'a laissé faire, et ça je dois dire que j'en suis reconnaissant, hein, bien entendu, même si on s'est battu, hein, parce que bon, c'est un milieu très violent, hein, le milieu de la recherche, je ne peux pas croire que c'est sympa, hein. C'est très violent. Donc on s'est battu parce que quand moi je voulais être de plus en plus indépendant et lui il avait pas envie de me voir partir, c'était une histoire d'amour hein, d'une certaine façon aussi hein, derrière ça il y avait pas mal d'affect. Et donc moi je voulais absolument importer en neurosciences les outils de la biologie moléculaire parce qu'au fond j'étais fondamentalement j'étais un biologiste moléculaire et c'était pas du tout sa culture. Et en même temps ça le dépassait un peu et ça lui faisait pas plaisir que ça le dépasse un peu donc on est arrivé au clash, et je suis parti, et puis je suis revenu. Mais c'est toujours sympa, on s'aime toujours, voilà.
On lui doit quand même de vous avoir fait changer de cap et de passer...
Non,
de...
pas du tout.
Alors,
non, expliquez-moi. Non, j'avais déjà décidé, bien avant de travailler sur le navet, le virus, j'avais décidé de faire de la neuroscience. Mais je n'avais pas trouvé de laboratoire dans lequel j'avais envie d'aller. Et en même temps, auquel j'aurais pu penser, n'avait pas de place pour moi. Peut-être qu'il pensait que j'étais pas assez bon, voilà. Et donc je me suis dit, entre-temps, je vais apprendre la biologie moléculaire, ça se fera bien un jour. Et c'est ce que j'ai fait, oui. Mais j'avais bien l'idée, après ces prolégomènes en biologie moléculaire et en chimie des nucléotides, de retourner aux neurosciences, oui.
Pourquoi les neurosciences ?
Je sais pas non plus, vous voyez. Pour être très honnête, je ne sais pas.
Est-ce que c'est l'objet... cerveau qui vous passionnait?
Non, ça me dégoûtait un peu, moi. Vous savez, à l'époque, on mangeait encore de la cervelle. Non, je sais pas. C'est peut-être... j'étais pas intéressé tellement par les neurosciences, à vrai dire. Maintenant, vous m'obligez à réfléchir. C'est très
c'est
dur.
Compliqué.
J'étais intéressé par la biologie du développement. J'étais plus intéressé à partir d'un œuf, on fait une poule. Un truc comme ça. C'est ça, la biologie du développement. C'est un miracle, hein, vous savez. Un œuf, c'est une cellule. Une poule, c'est des milliards de cellules. Plus loin, avec toute différence, il y a des plumes, il y a des machins, partez d'un œuf. Et d'un œuf de poule sort toujours une poule. Ça, c'est aussi un autre miracle. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'est ce miracle-là. Et c'est vrai que j'avais été voir Nicole de Douarin, qui était un agent et qui travaillait là-dessus. Ça avait été bon. J'aime beaucoup Nicole, hein, j'ai déjà avec elle la semaine dernière, mais voilà.
Elle travaille, elle, plus sur les cellules.
Elle travaille sur le développement, mais on n'a pas. J'ai senti que j'aurais plus de liberté chez Jacques. Voilà la vérité. Parce que c'est une femme. Assez forte. C'est pas que Jacques soit mou, mais il avait j'ai senti chez lui cette générosité. Il m'a dit, je t'installe un labo. Bon, c'était au troisième sous-sol, ça sentait mauvais. Il y avait un coq qui ne sait jamais qui était le jour ou la nuit, donc il faisait cocorico tout le temps. Il n'y avait pas de lumière, on était à 10 dans une espèce de truc. Mais bon, on a énormément travaillé là-dedans, on a fait des choses que tu aimes pas mal. Et donc oui, j'ai choisi ça, mais chez Jacques. J'ai fait de la biologie du développement, c'est-à-dire j'ai mis au point les cultures de cellules, j'ai regardé le développement et j'ai introduit la problématique développement dans l'empire Glowinski, voilà. Donc oui, je crois que c'est plutôt le développement qui m'intéressait. Et petit à petit, je me suis intéressé de plus en plus aux neurosciences, mais je ne me voyais pas comme un neurobiologiste. Je me voyais comme un biologiste du développement, un biologiste cellulaire, un biologiste moléculaire, mais pas comme un physiologiste du système nerveux. Je suis venu que beaucoup, beaucoup plus tard, à travers une découverte que mon laboratoire a faite et qui a été un peu bizarre, et que j'ai trouvé à développer en collaboration avec un grand physiologiste américain qui s'appelle Takao Hench. Et là, j'ai compris, j'ai eu l'illumination, c'est-à-dire que, j'avais beaucoup travaillé sur Claude Bernard, donc la physiologie m'intéressait en droit, mais en fait, mon but, si vous voulez, ça a été d'introduire l'embryologie dans la physiologie, voir les organismes vivants comme des organismes en construction permanente. Et en fait, c'est cette fusion entre l'embryologie et la physiologie, l'embryologie silencieuse qu'il y a chez les adultes, qui a été finalement, je dirais, la force qui m'a maintenu ou ce qui a structuré mon intérêt pour les recherches en biologie. Quoi, voilà.
Cette passion pour les formes et leur évolution.
La passion pour la révolution, ça c'est un titre de film, mais non. Une passion pour les formes.
Leur évolution.
Et leur évolution. Et
l'évolution des formes.
Une passion pour les formes, mais oui, mais elles sont en évolution permanente, les formes. Toute forme, c'est d'abord quelque chose qui se déforme, et toute déformation est un apprentissage, c'est une expérience qui s'inscrit dans une forme. Ça, c'est un peu bergsonien, ça plaît pas beaucoup à certains de mes collègues qui sont très rationalistes, mais moi, j'aime beaucoup Bergson, en même temps que Claude Bernard. J'ai mes faiblesses.
On arrive au début des années 80. Vous êtes chez Jacques Glowinski, et là, vous parlez d'une découverte tout à l'heure, on en reparlera demain, mais comment cette découverte se prépare ?
Un accident, comme toujours. Ça aurait pu être un accident catastrophique pour moi, d'ailleurs ça a failli l'être, hein. Ça a été presque. On avait pris, c'est très simple, hein. Je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. Je disais aussi sur la génétique de la drosophile, parce que j'étais fasciné par les mouches, hein. Bon, chacun son truc. Et donc, il y avait ces mutations chez les mouches qui, quand il y a une mutation, l'antenne se transforme en patte sur le premier segment de la, sur le segment de la tête. Et ce que je vous disais tout à l'heure, j'étais cette passion pour les formes. Et pourquoi une mouche donne toujours une mouche ? Parce que l'antenne est toujours là où elle doit et la patte là aussi. Tout d'un coup, l'œuf de mouche donne naissance à un monstre, une mutation. Et donc, ces mutations sont des mutations très importantes. Mais elles sont des mutations qui changent la forme en fonction de la place. À la place de l'antenne, vous avez une patte. Et ce que j'ai fait, c'est une manière toute idiote, c'est-à-dire que j'avais pris des neurones de la région A, et j'ai mis sur un autre type cellulaire qu'on appelle les astrocytes de la région A, et ça me donnait des neurones très poilus, pour ainsi dire. Je prenais les mêmes neurones sur les astrocytes de la région B, et ça me donnait des neurones complètement filiformes. Et l'inverse, des neurones de la région B sur des astrocytes de la région B, c'était poilu, et sur des astrocytes de la région A, c'était filiforme. Et là, il y avait quelque chose qui me disait, tiens, il y a un rapport entre la position et la forme, la position respective des deux types cellulaires, et la forme du neurone. Position, forme, mouche, antenne, patte, vous voyez, tête, premier segment thoracique. Et j'ai eu cette espèce d'idée totalement idiote que les mêmes gènes qui régulaient le développement des organes chez les drosophiles pouvaient réguler le développement de la forme chez les neurones des mammifères, même classe de gènes. Et c'est à partir de là que on a fait des manips pour montrer ça et qu'on est tombé sur un truc qui était improbable, totalement improbable. Et que j'aurais dû ne jamais voir, voilà. Mais bon, quand on a vu, on a vu. Voilà, il n'y a pas de marche arrière.
Merci beaucoup, à l'an prochain. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Alain Prochian. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Yann Fressy, coordination Sandrine Trainer, attaché de production Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.